Je m'appelle Nora Schweitzer, j'ai 35 ans et en 2020, je suis partie seule traverser le Sahara algérien. J'ai démarré mon voyage à Alger, la capitale, tout au nord, et je suis arrivée jusqu'au plateau du Tassili à Nager, à l'extrême sud-est de l'Algérie, à la frontière avec le Niger et la Libye. C'est une aventure qui a duré quasiment 2 mois et qui m'a fait parcourir plus de 4000 kilomètres.
Vous écoutez Bourlinguer, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui voyagent. Deux fois par mois, je reçois un ou une invitée qui se raconte au travers d'un voyage qui l'a marqué. Dans cet épisode, Nora raconte l'Algérie. Avec elle, on a parlé de sable, de Touareg et de solitude.
C'est Bourlinguer à travers le monde. Donc ce voyage, en fait, c'est l'histoire d'un choc émotionnel que j'ai vécu en 2007, lorsque j'ai visité le Sahara algérien pour la première fois. J'avais 20 ans et j'ai découvert pour la première fois la région du Tassili Niger. Donc à cette époque-là, j'avais tout juste commencé à vivre ma passion pour le Sahara. J'étais depuis l'adolescence passionnée par ce désert, même si j'y avais pas encore mis les pieds, mais en gros, j'avais commencé par regarder des livres de photos de Jean-Marc Duroux, un grand photographe qui a beaucoup travaillé sur le Sahara, notamment en Algérie et au Niger. Je lisais les récits d'exploration de Théodore Monod en Mauritanie. Je regardais des photos des Touaregs avec leur chèche et ça me faisait rêver. Je trouvais que c'était mystérieux et j'avais envie de découvrir leur culture. À 18 ans, en fait, dès que j'ai eu le droit de voyager seule, je suis partie pour la première fois au Maroc faire un voyage, une randonnée chamelière. Donc c'est un voyage, on voyage avec des dromadaires. L'année suivante, à 19 ans, je suis partie en Mauritanie. Et ensuite, j'ai voulu faire donc ma première traversée du Sahara. Là aussi, à 19 ans, la même année, traverser tout le Sahara de l'Ouest, de Casablanca au Maroc, et je suis arrivée jusqu'au Sénégal. Donc je suis partie seule et je me suis déplacée avec des transports divers et variés, en bus, en taxi-brousse, j'ai fait du stop, j'ai pris des pirogues. C'était mon premier grand voyage toute seule, à 19 ans. Et donc après ce voyage-là, j'avais envie d'explorer le centre du Sahara. Le Sahara central, c'est beaucoup plus montagneux, beaucoup plus rocheux, et j'ai choisi l'Algérie. À l'époque, il y avait en fait tout un tourisme qui était florissant au Sahara, donc il y avait des vols directs, on pouvait aller de Paris jusqu'à Djanet, jusqu'à Tamanrasset, jusqu'à Agadez, en plein cœur du Sahara. Et moi, en fait, j'ai choisi Djanet, sans trop savoir où j'allais. En janvier 2007, j'ai pris l'avion de Paris à Djanet. À partir du moment où on a passé la côte méditerranéenne de l'Algérie, on a commencé à survoler le Sahara algérien. Et ce qui m'a marqué, c'est qu'en fait, ça ne voulait pas se terminer. C'était sans fin. Le vol continuait et en fait, j'étais juste sidérée par l'immensité du Sahara. Et dans les 30-40 dernières minutes de vol, on a commencé à survoler ce qu'on appelle donc le plateau du Tassili Niger. Et là, en fait, c'était le choc déjà de l'avion, du hublot, puisque sous mes yeux, j'avais en fait un labyrinthe immense de roches, de pitons rocheux, de canyons, de failles, où il n'y avait absolument aucune trace de vie humaine. Et j'étais en fait choquée par ce que je voyais et j'étais complètement sidérée. Je suis descendue donc de l'avion, j'ai fait ce séjour d'une semaine dans cet univers. Pour dire quelques mots, le plateau du Tassili Niger, c'est un immense plateau de grès qui se situe donc vraiment à l'extrême sud-est de l'Algérie, donc on est à plus de 2000 km de la capitale Alger. On est à la frontière avec la Libye et le plateau, en fait, son versant ouest est côté algérien et son versant est est côté libyen. Donc, il est vraiment à la frontière. Il culmine à pratiquement 2000 mètres, environ 2000 mètres. Et c'est donc l'un des massifs sahariens les plus importants, avec le Hoggar ou le Tibesti. C'est un lieu qui fait quasiment 800 km de long. Et donc, il faut imaginer un 800 km en fait de dédale, de roches, de dunes, de montagnes, de canyons, de gorges. La semaine que j'ai passée en fait dans cet univers-là m'a complètement bouleversée.
Ce plateau a été rendu célèbre au niveau mondial parce que c'est l'un des plus grands musées à ciel ouvert au monde. On a des milliers de peintures et de gravures rupestres qui se cachent dans ces canyons, dans ces gorges et dans ces grottes. Elles ont été rendues célèbres parce qu'un préhistorien français, Henri Lotte, les a répertoriées en partie dans les années 50. Et depuis 1982, c'est un parc naturel qui est classé à l'UNESCO, justement pour ces peintures-là. Donc c'est des peintures qui ont certaines jusqu'à 10 000 ans et qui documentent en fait la vie des gens qui habitaient en fait dans cet univers-là. Donc on a des scènes de chasse, on a des scènes de guerre avec des combats, on voit des gens juchés sur des chars de guerre, on voit des scènes de danse, de la vie des femmes avec des robes, avec des bijoux, on voit des animaux aussi, beaucoup d'animaux de la savane, parce que en fait, avant, le Sahara n'était pas un désert, c'était un peu l'équivalent des savanes africaines qu'on connaît aujourd'hui, donc avec des lacs, avec de la verdure, et donc il y a des peintures et des gravures rupestres de lions, d'éléphants, de girafes, c'est vraiment un voyage dans le temps qu'on fait quand on va là-bas et ce qui est incroyable, c'est de voir surtout le côté très bien conservé de ces peintures qui fait que vous avez l'impression que l'homme qui a peint cette girafe, il était là hier en train de la peindre. Et donc c'est évidemment quelque chose qui ajoute énormément à la puissance de cet endroit et au mystère en fait qui entoure cet endroit, car on le sent à la fois vide, puisqu'on est dans un désert aujourd'hui, mais on a toutes ces peintures et toutes ces roches, ces gravures qui nous ramènent dans la vie d'avant en fait. Donc j'ai découvert ça en 2007, mais après, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le Sahara a connu beaucoup d'insécurité. Ça a été le début, en fait, des problèmes dans le Sahara. En 2007, il y a eu des Français qui ont été tués en Mauritanie. Ensuite, en 2010, il y a eu une prise d'otage à Arlit, sur un site d'uranium. En 2013, une prise d'otage en Algérie. Et donc, une grande partie du Sahara a été classée en zone rouge par la France. Zone rouge, ça veut dire formellement déconseillé. Ça n'empêche pas d'y voyager, ça n'interdit pas d'y voyager, mais concrètement, il n'y avait plus de billets d'avion, il n'y avait plus de voyages qui étaient organisés par les agences. Si on voulait aller là-bas, il fallait avoir de très très bons contacts et connaître des gens sur place et vraiment savoir où est-ce qu'on mettait les pieds, ce qui n'était pas mon cas à l'époque, puisque j'avais pas eu assez le temps de découvrir cet endroit, j'avais à peine 18-19 ans. Donc j'ai vraiment mis le Sahara dans un coin de ma tête et j'ai commencé à voyager ailleurs. En 2019, il y a quelque chose qui a attiré mon attention, c'est que il y a la carte de l'Algérie qui a été un petit peu modifiée par le Quai d'Orsay, et certaines zones qui étaient en rouge sont passées en orange. C'est toujours déconseillé sauf raison impérative, mais en tout cas, moi, ça m'a donné l'idée de faire un sujet sur cette région. Entre-temps, j'avais évolué aussi professionnellement, et j'étais devenue journaliste, et j'avais fait déjà un sujet sur le Sahara mauritanien, donc pour Géo. Et j'ai donc été revoir Géo et je leur ai proposé de faire un sujet sur le Sahara algérien. Et en 2019, c'était le début du Hirak. L'Algérie était vraiment dans l'actualité. C'était en février 2019. Et Géo a dit OK pour faire une couverture sur l'Algérie et ils m'ont donné ce sujet sur le Sahara. Et donc, je suis revenue en fait à Djanet en 2019, en reportage cette fois-ci. Pour ce reportage, je vais dans une autre région, toujours dans la même zone, mais un autre coin que j'avais pas exploré, puisque comme je le disais tout à l'heure, c'est très très grand. Et donc je vais dans une zone qui s'appelle la Tadraart. Là, on est à 250 km au sud-est de Djanet. J'ai atterri au même endroit, mais je suis partie dans une autre direction. C'est une région qui est à la frontière avec la Libye. Pour pouvoir l'atteindre, déjà, vous faites 150 km sur une route goudronnée et ensuite, on sort de la route goudronnée et on part sur des pistes. Et on fait à peu près 150 km supplémentaires sur des pistes. Au bout d'un moment, on traverse des paysages très différents. On traverse des paysages complètement rocheux avec de la roche complètement grise. Ensuite, il y a des dunes de sable noir, des dunes de sable blond. En fait, j'ai envie de dire, c'est un peu n'importe quoi. Des paysages qui se suivent et qui sont tous différents les uns des autres. Et ensuite, on arrive devant un canyon, le canyon de l'Oued Injaren. Il faut imaginer qu'on a deux grandes falaises sur les deux côtés. Et en fait, à partir du moment où on rentre dans ce canyon, on rentre dans ce qu'on appelle la Tadraart. Et à partir du moment où ce canyon s'élargit, il s'élargit sur un paysage complètement fou. On dirait un tableau avec des montagnes, des pitons, des arches rocheuses auxquelles s'accrochent des dunes immenses de sable orange. Moi, je suis restée, en fait, encore une fois, choquée par ce que je voyais. C'était presque irréel. Et surtout, en fait, ce qui s'est passé, j'ai eu un choc le soir, quand la nuit est tombée et qu'on s'est retrouvés au bivouac. Tout le monde est parti se coucher et moi, je suis restée à regarder, en fait, la lune. J'ai eu conscience de où est-ce que j'étais. Et je me suis dit, on est 10 personnes au milieu du plus grand désert du monde. On est en plein cœur du Sahara central, donc on est à 2000 km de la première mer, 300 km de la première oasis. Il n'y a absolument aucun réseau, aucune vie humaine, pas de ville. On a quitté la route il y a 150 km et en fait on est juste perdu au milieu de nulle part. Les autres personnes qui étaient avec moi ont peut-être trouvé ça tout à fait normal, mais moi j'ai trouvé ça absolument incroyable parce que c'était peut-être la première fois que j'étais dans un lieu aussi isolé. Et même si, évidemment, il y avait une ville à 300 km, le simple fait d'être au cœur du continent africain et d'être en plein cœur du Sahara, qui est encore une fois le plus grand désert du monde, donc on a 9 millions de kilomètres carrés de désert autour de soi, ça m'a en fait complètement bouleversée. Et finalement, quand je suis rentrée de ce reportage, bon, quand je suis en reportage, je suis là pour travailler, donc je fais ce que j'ai à faire et puis après je rentre chez moi. Mais une fois que j'ai terminé mon reportage et que j'ai écrit ce que j'avais à écrire, je n'avais plus qu'une idée, c'était de retourner là-bas en fait. J'étais obsédée par ce lieu. 3 mois après, en fait, j'ai fait une chose que j'ai trouvée... on va dire folle, c'était d'aller dans le Sahara en plein été. J'y suis allée de nouveau donc en avion et ça ne m'a pas suffi. J'ai décidé qu'en fait, il fallait que j'y aille par la route. Entre-temps, j'avais lu un livre qui s'appelle « Le rendez-vous des Sainte-Hélène » de Roger Frison-Roche, qui est un grand classique de la littérature de voyage sur le Sahara. Et en fait, ce livre, c'est l'histoire d'un... C'est l'histoire d'un officier de l'armée française, donc c'est un roman, donc c'est un officier de l'armée française pendant la colonisation française de l'Algérie qui est nommé dans le Tassili, donc très très loin, donc à l'extrême sud de l'Algérie. Et en fait, il est fiancé en France et au bout de quelques mois, il ne répond plus à sa fiancée. Frison Roche, dans son roman... écrit en fait que le Sahara exerce sur cet officier un lent travail d'envoûtement. Et donc sa fiancée, en fait, elle décide de partir le rejoindre au volant d'une deux chevaux, toute seule, pour le rejoindre dans le Sahara. Le roman, c'est l'histoire de son périple à travers le Sahara algérien et au volant de cette petite voiture et à travers des massifs incroyables, etc. Et donc évidemment, c'est rocambolesque, c'est très prenant. Ce qui est intéressant, c'est que Roger Frison-Roche, il parle de ce qu'il appelle la forêt de pierre. Sur ça, il dit... De multiples tours de grès aux formes étranges d'obélisques, d'arches naturelles, de pagodes chinoises, qui forment un ensemble déchiqueté et fantasmagorique. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, c'est exactement ce que j'ai vu, et je dois absolument retourner voir cet ensemble déchiqueté et fantasmagorique, et je dois en voir plus. C'est-à-dire que je devais aller là-bas, je voulais retrouver la sensation d'isolement que j'avais vécue cette fameuse nuit dans la Tadrarte. Ça, c'était la première décision, c'était de dire « je dois retourner là-bas et je dois revoir cet univers et je dois m'y enfoncer encore plus et m'isoler là-dedans pour vraiment me confronter à cet univers-là qui, moi, me paraît incroyable. » Et la deuxième chose que j'ai comprise en lisant ce roman, c'est qu'en fait, je n'irai pas en avion. Parce que j'y étais allée donc 3 fois en avion et cette fois-ci, je voulais voir tout ce qu'il y avait entre Alger et ce terrain-là, et je voulais voir le cœur du Sahara. Quand on prend l'avion, on ne fait pas le lien entre le lieu de départ et le lieu d'arrivée. On est propulsé d'un point A à un point B, mais on ne sait pas ce qu'il y a entre les deux. Donc moi, je voulais absolument arriver à Alger en bateau et ensuite descendre par la route. C'est ce que j'ai fait, donc je suis partie un petit matin de janvier 2020. Je suis montée dans un bus à Alger, direction Rabdaya, donc à 600 km au sud d'Alger. Évidemment, avant d'en arriver à ce matin-là, il y a eu des mois et des mois de réflexion. d'hésitation, de crainte, puisque je ne connaissais rien à l'Algérie, hormis Janet, où j'avais été, mais à part ça, je n'avais aucune connaissance de ce pays, je n'avais pas de contact dans ce pays particulièrement, et mine de rien, j'avais une idée d'un pays quand même assez compliqué, je ne savais pas si je pourrais m'y déplacer seule, facilement, en tant que femme. J'avais déjà traversé la Syrie seule les années précédentes, mais l'Algérie, ça me paraissait effrayant ou étrange, donc j'ai beaucoup hésité, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit « tant pis, j'y vais, il faut absolument que je fasse ça ». Donc c'est pour ça que je suis partie d'Alger ce jour-là de janvier, et j'ai pris la direction de Hardaya, qui est la ville des Mozabites. Donc ce qui est intéressant, c'est que ce voyage... Moi, j'avais une destination, c'était le Tassili, mais au final, je me suis retrouvée à découvrir en fait toute la diversité, et elle est immense, du Sahara algérien. Puisque j'ai fait un séjour donc à Hardaya, là on est chez les Mozabites, une communauté berbère qui est retranchée dans une vallée, la vallée du Mzab, qui a gardé ses traditions, ses cultures, et on est vraiment dans un monde à part quand on visite Hardaya. Ensuite, j'ai visité l'un des plus importants ergs du Sahara, qui est le Grand Erg Occidental. Après Hardaya, j'ai fait donc 600 km supplémentaires jusqu'à la ville de Timimoun, et c'est là que j'ai pu partir dans les sables du Grand Erg Occidental. Et là, j'étais repartie dans le tableau du Sahara, puisque le Grand Erg Occidental, ce sont des centaines de kilomètres de dunes blondes, on dirait peintes, tellement elles sont parfaitement régulières et elles se répètent à l'infini. Donc là encore, le vertige du désert m'a pris à la gorge. Ensuite, j'ai continué encore ma route vers une ville qui s'appelle Adrar, 250 km plus au sud. Quelque chose de complètement différent s'est invité dans mon voyage, puisqu'en fait, je me suis retrouvée à rencontrer des Algériens, à rencontrer des jeunes Algériens. Je me suis retrouvée à découvrir la culture, une certaine partie de la culture algérienne, puisque la culture algérienne est très vaste, il y a beaucoup de cultures en Algérie. J'ai remarqué en fait toutes les similitudes qu'il y avait entre le Maroc et l'Algérie. Donc là, j'étais plus trop dans l'univers saharien, j'étais plus dans l'univers, on va dire, maghrébin. Je voyais tous les points communs qu'on avait entre Maroc et Algérie, et surtout, j'étais accueillie comme une Marocaine. Et donc, je sentais le côté très fraternel, j'étais très bien accueillie, parce que j'étais d'origine marocaine. Et ça, c'était aussi une surprise, parce que, ces deux peuples qui sont toujours parfois un peu en compétition, il y a de la compétition et il y a malheureusement des conflits politiques, d'ordre politique, mais moi, en fait, en tant que voyageuse, j'ai pu voir, en fait, l'amour et vraiment l'attrait qu'ont les Algériens pour les Marocains. Donc ça a été une partie vraiment très prenante de mon voyage, et en fait j'ai décidé de rester beaucoup plus longtemps que c'était prévu, donc ça a rallongé aussi mon voyage pour passer du temps avec ces personnes-là que j'ai rencontrées. Finalement, j'ai enfin continué ma route jusqu'à arriver à Tamanrasset, encore 1000 km quasiment de route plus tard. Tamanrasset, c'est vraiment la grande ville du sud algérien, on n'est plus qu'à 300 km de la frontière avec le Niger et le Mali, et on est surtout aux portes d'un autre grand massif saharien qui s'appelle le Hoggar, qui est un peu un mythe pour les voyageurs qui s'intéressent au Sahara. Et moi, en fait, j'ai toujours été intéressée par cet endroit-là, mais c'est-à-dire que dans les années 70-80, en fait, ce qui était fascinant, c'était et qui était aussi très facilement faisable à l'époque, c'était de traverser le Sahara en voiture. Les gens partaient, ils allaient jusqu'au Niger en traversant tout le Sahara, et donc ils passaient notamment par cet endroit-là. Donc j'ai pu aller dans le Hoggar, j'ai pu aller notamment à la Sekrem, qui est là aussi vraiment un lieu mythique du Sahara, où on dit qu'on regarde le plus beau coucher de soleil du monde, parce que effectivement vous êtes à 2780 mètres d'altitude, très très haut et on est dans un univers de montagne. C'est un plateau complètement volcanique avec des anciens volcans en fait qui ont des formes diverses et variées. Vous avez des montagnes en forme de pic, des montagnes arrondies, des montagnes en forme d'accordéon et vous êtes au milieu d'un champ comme ça de montagnes et vous êtes comme devant un panorama incroyable. Et donc j'ai passé une nuit au sommet et on m'a dit qu'il avait fait moins 13 degrés donc j'ai failli mourir de froid cette nuit-là. Et donc une fois que j'avais fini ce périple qui m'a permis vraiment d'assouvir mon envie de découverte de ce Sahara algérien, j'ai continué ma route et j'ai enfin remis les pieds à Djanet. Et là, j'ai mis à exécution mon plan, qui était donc de repartir dans le Tassili. Je voulais en fait vraiment être seule à seule, face au désert. Donc j'ai été voir mon contact, la personne avec laquelle j'avais déjà voyagé, et je lui ai dit « Écoute, moi je voudrais être seule quelque part ». Il m'a dit « Tu ne peux pas être seule quelque part, tu ne sais pas te débrouiller s'il y a un serpent qui te mord, tu ne sais pas ce que tu vas pouvoir faire ». Donc je lui ai dit « Ok, est-ce que je peux avoir seulement une personne ?» Pas de guide, je ne veux pas de chamelier, je ne veux pas de cuisinier, parce que dans les voyages sahariens, en général, il y a toujours un guide, un cuisinier, un chamelier, et c'est aussi comme ça que ça se passe toujours. Donc j'ai demandé, j'ai dit je ne veux pas de guide, puisque c'était une forme de retraite que j'ai envie de faire, et la cuisine, je vais m'en charger. Donc il m'a dit ok, je te donne un chamelier, deux chameaux, et vous partez tous les deux tout seuls. Donc un matin, on s'est retrouvés à partir. J'ai rencontré un Touareg qui faisait office de chamelier avec moi pour une semaine et on s'est salués et on est partis tous les deux marcher et on était partis pour une semaine en solitaire, en tête à tête dans le désert. On a fait exactement ce que je rêvais de faire, c'est-à-dire qu'on est partis à pied et on a pris ce labyrinthe. On est parti dès les premières heures, puisque ce qui est incroyable avec Djanet, c'est que certes, c'est une minuscule ville, c'est une petite ville de 10 000, 15 000 habitants, mais autour d'elle, il n'y a absolument rien. On est en plein milieu du Sahara. Donc à peine vous faites 2 km ou 1 km, ça y est, il n'y a plus de réseau. Et ça commence le labyrinthe de pitons rocheux, encore une fois, de dunes. Et je veux dire, au bout d'une heure de marche, s'il m'avait dit de rentrer, j'aurais été incapable de rentrer, tellement c'est un labyrinthe et on ne fait que aller à droite, à gauche, à droite, donc ça n'en finit pas. Et donc on est partis tous les deux, on a fait 2 jours de marche. À vol d'oiseau, on ne devait pas être très loin de Djanet, puisque forcément à pied on se déplace pas très vite, mais le résultat il était là, c'est-à-dire que j'avais la solitude dont je rêvais, puisqu'on est parti dans une région, dans un côté où il n'y avait même pas de campement nomade, il n'y avait absolument personne, on était seul, on avait marché 2 jours pour arriver là où on était, et on s'est installé dans une espèce de petite place entourée de rochers, et on a mis notre campement à cet endroit-là, et à partir de ce moment-là, mon chamelier Bouhani a commencé à vaquer à ses occupations avec ses dromadaires, et moi aussi j'ai commencé à faire ce que j'avais à faire dans cet endroit-là du désert. On était dans ce rythme-là, il y avait beaucoup de silence de sa part, puisque lui, de manière générale, il était assez peu bavard, donc c'était assez intéressant de se retrouver face à une personnalité comme ça. Et moi, en fait, j'ai pu surtout faire ce que j'étais venue faire, à savoir me mettre réellement en tête-à-tête avec ce plateau-là du Tassili, puisque l'endroit où on s'est posé, il y avait vraiment la lisière du Tassili qui était devant mes yeux. Je faisais des séances, en fait, on va dire, une sorte de méditation, mais c'était plutôt c'était ce que j'appelle vraiment un tête-à-tête avec le désert, un tête-à-tête avec le Tassili. J'ai ressenti des choses que je n'avais jamais ressenties avant, c'est-à-dire notamment le silence, un silence implacable qu'on ne peut pas imaginer si on ne l'a jamais entendu, parce qu'en fait le résultat de ce silence, c'est que vous avez l'impression d'avoir perdu l'ouïe, en fait. On se demande si on a perdu vraiment l'ouïe, tellement il n'y a absolument aucun son, même pas un grain de sable, même pas un vent, même pas un oiseau qui passe, rien. Et l'autre élément, c'est l'immobilité absolue du paysage. Il n'y a rien qui bouge, absolument rien. Donc là aussi, on a l'impression qu'il y a quelque chose de... C'est très angoissant. Et en fait, ce désert que j'avais toujours idéalisé, dont j'avais toujours rêvé, parce qu'on rêve toujours beaucoup du désert, d'un coup, il m'apparaissait de manière complètement austère et quasiment lugubre, en fait. C'était effrayant. Et cette sensation-là que j'ai vécue, elle était à la fois grisante, puisque j'étais exactement en train de faire ce que je voulais faire. Je voulais être isolée et je voulais être dans un endroit calme et coupé du monde. Et c'était là que j'étais et c'était ce que je cherchais. Et en même temps, c'était terriblement effrayant. Parce que je sentais bien justement qu'en tant qu'être humain, je n'avais absolument rien à faire là. Finalement, j'ai fait cette petite retraite. Et au passage, ce qui a été évidemment... au-delà de la confrontation, on va dire, avec moi-même et de la confrontation surtout avec le Tassili que j'étais venue chercher, il y a eu aussi la rencontre avec Bouhanni, donc mon chamelier. Avec lui, j'ai découvert la vie dans le désert. Il m'a appris à chercher du bois, il m'a appris à chercher de l'eau, il m'a appris à chercher à allumer du feu. On a cuisiné tous les deux dans le sable pendant 8 jours. On parlait très peu. Bon, moi, je parle l'arabe, mais lui, il était touareg, donc il avait un petit niveau d'arabe. Et donc, j'ai essayé de me rapprocher un peu de la vie que peuvent avoir les nomades et qui m'a toujours fascinée, mais dont j'ai réalisé qu'elle était une vie absolument terriblement difficile. Et donc le fait de vivre ça, ça m'a permis aussi de mieux comprendre en fait qu'est-ce que vivent ces populations-là et qu'est-ce que ça signifie d'être nomade dans le désert. Finalement, ce voyage-là, j'ai fait exactement ce que je voulais faire, c'est-à-dire que je suis allée au bout de mon envie de retourner dans le Tassili. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au final... je n'ai absolument pas réglé ma confrontation avec cet endroit-là, puisque j'ai véritablement laissé une partie de moi-même là-bas, et je n'ai qu'une obsession, c'est de retourner là-bas pour essayer de retrouver cette sensation d'isolement et cette sensation d'être tout simplement dans un autre monde. C'est un sentiment qui reste unique, je trouve, dans une vie.
Merci beaucoup pour ton récit. Pourquoi t'as voulu raconter ce voyage en particulier ?
Alors, j'ai voulu raconter ce voyage parce que c'est vraiment un voyage dont je rêvais depuis des années, mais que j'imaginais pas pouvoir faire, et qui a demandé beaucoup de questionnements et beaucoup d'hésitations. Et en fait, j'ai voulu le raconter parce que ça a été un moment extrêmement marquant pour moi. Et je pense que j'ai besoin aussi d'extérioriser un peu ce que j'ai vécu et de le partager avec d'autres personnes. J'aimerais bien aussi savoir si ce genre d'expérience forte avec un élément naturel est arrivé à d'autres personnes, ou est-ce que je suis la seule à me mettre en tête à tête avec des montagnes de manière obsessionnelle comme ça.
Bon, je pense que partir dans le Sahara, c'est pas pareil que partir ailleurs. Mais quel est ton niveau de préparation ? À quel point tu te prépares ? Et quelle place tu laisses à l'improvisation une fois que tu es sur place, justement ?
Alors, pour le coup, dans le cas de ce voyage-là, il y a une préparation, mais très vague, finalement. Moi, j'aime beaucoup être libre et j'aime pas du tout les programmes. Tout ce que je savais, c'était que j'avais à peu près une date à laquelle il fallait que je sois rentrée en France, mais j'avais devant moi 2 mois et j'avais un itinéraire global, mais je ne savais pas, par exemple, que j'allais m'arrêter 6 jours dans la ville d'Adrar. Je pensais que cette ville allait être une simple étape, d'ailleurs, de transit. Et au final, j'ai rencontré 2 filles, 2 Algériennes, qui m'ont abordée sur une place centrale d'Adrar. On est devenues amies, elles m'ont amenée dans leur famille, et en fait, j'ai décidé de rester 6 jours de plus dans cette ville. Donc, depuis toujours, quand je fais des voyages au long cours, j'essaye toujours d'aller le plus possible vers les gens, d'aller vers les occasions, vers les opportunités, et donc par principe il ne faut pas avoir d'impératif.
Qu'est-ce que tu vas toujours prendre avec toi dans ton sac quand tu voyages ?
Je suis pas superstitieuse, mais j'aime bien avoir la bénédiction de ma maman, surtout quand je pars comme ça sur des terrains lointains et peut-être un peu compliqués. Donc en fait c'est tout simplement un petit bout de Coran. Ma mère étant musulmane et croyante, elle m'a un jour écrit un petit bout de Coran sur un papier qui maintenant est vraiment au point de décéder. Et en fait, elle me l'a mis sur un petit bout de papier et je mets ça dans une espèce de petite pochette où il y a mon passeport et mes clés. Donc vraiment, c'est la pochette qu'il ne faut pas perdre pendant le voyage. Et donc, je mets systématiquement ce petit bout écrit de la main de ma mère. et également un petit Coran que j'ai acheté en Palestine et qui me rappelle ma vie en Palestine. Et donc c'est des petits liens avec ma vie qui me permettent de me sentir mieux sur la route, et ça me donne l'impression que je suis protégée, voilà.
Je trouve que tu as une manière très photographique et très visuelle de raconter, et justement comment tu documentes tes voyages, comment tu les racontes, et est-ce que la photo a une place importante ?
Alors oui, c'est surtout la photo qui m'a amenée vers les voyages en fait. Les deux sont liés dans ma vie, c'est-à-dire que dès le début, dès mes tout premiers voyages, j'étais avec mon appareil photo argentique. Mon premier voyage dans le Sahara, c'était il y a un petit moment, donc à l'époque c'était l'argentique. Et donc j'ai toujours un appareil photo, et en fait mon amour pour le Sahara est lié aussi à la photo, c'est-à-dire que voilà, j'aime les formes, les courbes, les jeu de lumière, d'ombre. Je peux passer des heures et des heures à prendre des cadres comme ça, un peu abstraits. Il y a vraiment, le Sahara, c'est comme un tableau. Ça se prête extrêmement bien à la photographie. Et donc, la photographie, oui, effectivement, elle fait partie de... C'est la principale manière que j'ai de documenter mes voyages. Et il y a aussi l'écriture, puisque dès mon premier voyage aussi, quand j'avais 18 ans, j'ai toujours eu un carnet. J'ai énormément besoin d'écrire pendant le voyage pour exprimer tout ce que je suis en train de vivre, et j'essaie de le faire autant que possible, même si des fois on n'a pas le temps d'écrire et c'est compliqué, mais vraiment ça... Là, pendant ce voyage en Algérie, ce que je faisais, c'est que j'écrivais dans les bus pendant les transferts, parce que je faisais de très longues journées de voyage de 10h, 11h, et donc j'écrivais autant que possible dans les bus.
Une fois que t'es de retour au pays, dans ton appartement parisien dont tu n'as pas perdu les clés, est-ce que tu es atteinte du blues post-voyage ? Et si c'est le cas, comment tu te soignes ?
Alors, oui. Surtout quand je vais dans le Sahara. J'ai eu un... Justement, c'est ce qui s'est passé quand je suis rentrée de mon reportage dans le Tassili en avril 2019, donc pour Géo. Quand je suis rentrée, j'étais déphasée, en fait, pendant 3, 4, 5 semaines. Je n'étais pas là, en fait. Mon esprit, il était resté là-bas. Moi, j'étais à Paris, mais mon esprit était là-bas. Et en fait, je regardais par la fenêtre de mon appartement parisien, et c'est vrai que j'ai une vue qui est très belle et qui montre un peu la mer de béton de Paris, et je repensais en fait au paysage absolument lunaire que j'avais vu dans la Tadrart, par exemple, et je me disais, ce n'est pas possible que ce soit sur la même planète, ce n'est juste pas possible. Et donc, également, le blues vient du fait que c'est difficile de trouver des gens à qui raconter ça, qui n'ont pas vécu ça, c'est difficile de mettre des mots sur ce qu'on a pu ressentir. Donc oui, j'ai ce blues-là, je l'ai. Et comment je fais pour le traiter ? Alors j'écoute énormément de musique du Sahara, je lis des livres, comme justement Le Rendez-vous des Sainte-Hélène, en fait je l'ai lu juste après ce voyage-là, et c'est ce livre-là qui m'a permis de comprendre que j'avais besoin de faire cette traversée de l'Algérie. Et puis sinon après je reprogramme un voyage et puis j'y retourne.
Comment tu considères la rencontre en voyage ? Est-ce que c'est plus des relations à usage unique ou des relations qui durent ? Et est-ce qu'il y a une rencontre qui t'a particulièrement marquée au cours de tes voyages ?
Alors, je considère plutôt les rencontres de voyage comme des vrais débuts de relations, et je remarque que je garde souvent le contact avec les personnes que j'ai rencontrées dans mes voyages. Mais ça dépend un peu de la situation, ça dépend de combien de temps j'ai passé avec les gens, ça dépend de qu'est-ce qu'on a échangé, mais souvent mes rencontres de voyage se transforment en amitié, et là dans le cas de l'Algérie, les deux filles dont j'ai parlé et que j'ai rencontrées dans cette ville, on est toujours en contact aujourd'hui, et c'est devenu des amis, et je sais que je les reverrai un jour. Donc souvent mes rencontres se transforment en amitié, et globalement la manière dont je vois la rencontre, c'est que j'essaye toujours, quand j'ai la possibilité, de vraiment passer du temps avec les gens, et c'est quelque chose que j'adore faire en fait, c'est d'aller rencontrer des familles, de rencontrer des gens et de vivre des instants de vie en fait avec les gens. Aller au cinéma, aller au restaurant avec ses filles, c'est des rencontres d'une journée ou de deux jours, mais finalement je partage des bouts de leur vie, et ça c'est quelque chose que j'aime bien faire. Une chose qui m'arrive assez souvent, c'est de rencontrer des jeunes femmes dans ces pays-là, et une rencontre qui m'a beaucoup marquée, c'était la rencontre avec une jeune fille dans un village dans le Sahara mauritanien, qui, me voyant arriver journaliste pour l'interviewer, m'a dit « Moi aussi, j'aimerais bien être journaliste. Et j'aimerais bien être journaliste chez France 24. » Et en fait, quand je la voyais, elle était dans son minuscule village du Sahara. Et ça m'a fait un peu mal parce que, objectivement, je savais ce qu'elle devrait endurer pour en arriver là. Et concrètement, pour elle, c'est quasiment impossible dans le sens où elle n'a même pas de collège là où elle se trouve. Donc, et elle est confrontée à l'isolement de l'endroit où elle vit. Donc, elle m'a vraiment touchée parce que je me suis rendu compte de la chance que j'avais, de la liberté que j'avais en étant effectivement née en France avec un passeport français. Et voilà, c'est ce genre de rencontre qui est un peu marquante.
Pour contrer le blues post-voyage, tu disais que tu préparais du coup de futurs voyages. Quels sont tes prochains projets du coup? Mis à part retourner au Sahara, chercher cette partie de toi-même que tu as laissée là-bas.
Alors, j'ai un projet de retourner au Sultanat d'Oman, pays où je me suis rendue il y a 3 mois en reportage, de nouveau. Donc cette fois-ci, je vais explorer une autre partie de désert, puisque je vais explorer le désert du Karvid, le Rub al Khali, qui se trouve en grande partie en Arabie Saoudite, aux Émirats et à Oman. Donc c'est le plus grand désert de la péninsule arabique. Et donc je continue ma petite exploration des déserts.
Quel conseil tu donnerais aux personnes qui voudraient se lancer dans un voyage en plein désert ?
Le conseil que je pourrais donner, ce serait déjà d'avoir du temps pour pouvoir vraiment ressentir le désert. Donc, essayer d'éviter les voyages ou les excursions, en fait, où on part le jour 1 à 16h pour aller regarder le coucher de soleil, passer la nuit dans le désert et puis revenir le lendemain. Essayer de prendre véritablement une semaine. La considération, évidemment, est qu'aujourd'hui, c'est pas évident d'aller dans le Sahara. Il y a peu de pays où on peut aller facilement dans le Sahara. Donc, la Mauritanie ou le sud algérien sont des endroits où on peut aller en sécurité et faire des voyages, pour moi, à pied. C'est la meilleure manière de visiter le Sahara pour vraiment profiter de la nature, du silence et du rythme des gens sur place. Donc privilégié à pied, voyage à pied ça veut dire voyage avec des dromadaires ou avec des ânes, et donc ça permet aussi d'aller rencontrer des gens qui sont des nomades, puisque en étant à pied on peut plus facilement connaître, voir des campements nomades, donc aujourd'hui c'est possible dans ces pays-là, et c'est un voyage qui sera forcément marquant.
Écoute, on arrive à la fin de cet entretien. Donc tu as un petit espace qui t'est réservé, dans lequel tu peux partager une recommandation, une anecdote, un proverbe, une citation, c'est à toi.
Ma recommandation, ce serait de absolument en fait suivre ses idées. Je sais que ce voyage m'a beaucoup occupé l'esprit, et finalement je ne pouvais pas ne pas le faire, donc j'entends beaucoup de gens qui me disent qu'ils ont envie de faire des choses, qu'ils ont envie d'aller ici ou là, et qui n'osent pas franchir le pas, donc moi je pense qu'il faut autant que possible se lancer. Ensuite, pour les gens qui sont peut-être fasciné aussi par le Sahara et qui a envie de découvrir cette région-là, je recommande la lecture du livre « Le rendez-vous des Sainte-Hélène » de Roger Frison-Roche. C'est une pure merveille de description du Sahara et des ambiances sahariennes, donc ça peut être un bon moyen de déjà découvrir ce territoire-là sans y aller. Et moi, ça m'a inspiré, ça m'a donné envie d'écrire, en fait, ce que j'ai vécu et ce que j'ai lu. Et donc, j'ai écrit un livre que j'aimerais bien éditer prochainement et qui sera un clin d'œil aussi au rendez-vous des Sainte-Hélène, puisque ça s'appelle « Sur la route des Sainte-Hélène ». Donc, à lire aussi, je l'espère, un jour.
Merci beaucoup.
Merci à toi.
Et voilà, c'était Bourlinguer, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui voyagent. Merci beaucoup pour votre écoute, j'espère que ça vous a plu. Merci également à mon invité pour sa chouette histoire. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner au podcast sur votre application d'écoute préférée. Vous pouvez aussi écouter Bourlinguer sur la web radio Voyage, Allô la planète. Vous pouvez également suivre le podcast sur Instagram, bourlinguer.podcast. Ah oui, une dernière chose. La musique que vous entendez derrière s'appelle « J'ai bourlingué ». Elle a été écrite et interprétée par Serge Raphaël. Merci à lui.